de la Russie, de l'histoire d'Israël. Solitement, la Gemara de Shabbat nous fait comprendre, dans le commentaire que le Maral en a donné, dans le chapitre 13 du Nefer Israël. Ce jugement est le suivant. L'exil continue. Et il est formulé de la manière suivante. Dieu s'adresse au patriarche et leur dit, ton peuple a fauté. Il s'adresse successivement à chaque patriarche, ton peuple a fauté. L'exil continue. Donc il y a encore inadéquation entre l'identité d'Israël et sa vocation. Alors il s'adresse d'abord à Abraham. Et Abraham répond, très exactement, le Midrash dit, tes enfants ont fauté. Abraham répond, mes enfants ont fauté, eh bien il faut les annuler pour la sanctification de ton nom. Dieu n'est pas satisfait de cette réponse et s'adresse à Jacob. Et il pose la même question, Jacob, tes enfants ont fauté. Et Jacob donne la même réponse qu'Abraham. Et il dit, mes enfants ont fauté, il faut les annuler pour la sanctification de ton nom. Alors Dieu dit, je n'ai pas trouvé de vraie sagesse chez les anciens, je n'ai pas trouvé non plus de vraie intelligence chez les plus jeunes. Abraham, le grand-père, Jacob, le petit-fils, et il s'adresse à Isaac. Et il dit à Isaac, Isaac, tes enfants ont fauté, que faut-il faire? Et Isaac répond, quand Israël ont dit, nous acceptons d'être Israël, la race de l'histoire, alors c'était tes enfants à toi, et maintenant qu'ils ont fauté, si tu les appelles mes enfants, alors Isaac propose une stratégie à Dieu, il dit voilà, nous allons compter le temps exact pendant lesquels ils sont occupés à fauter. Alors on déplace le temps du travail, le temps de la nourriture, le temps de l'étude, le temps du sommeil, tout le temps de tout le temps. Et puis il reste très peu de temps par jour à être vraiment occupé à la faute. Et Isaac propose à Dieu de partager ça en deux. Que Dieu pardonne la moitié et Isaac prend sur lui l'autre moitié. Et il ajoute que même si Dieu ne veut pas pardonner la moitié, il prendra sur lui tout. Et d'ailleurs il l'a déjà fait, puisqu'il s'était offert en sacrifice complet. Et le Midrash finit là. Moi, vous comprenez très directement la logique de ce Midrash. Je voudrais relier avec l'enseignement précédent de deux manières, comme le Maharal le montre dans son enseignement. C'est que, finalement, qui peut justifier Israël? C'est le patriarche intermédiaire. C'était celui qui n'était ni au commencement, ni à la fin. Parce que c'est celui qui vraiment a vécu la vocation d'Israël d'être une succession de générations collectives entre le premier et le dernier. Et au fond, le problème du destin historique d'une certaine identité collective qui se constitue le long des générations est bien plus le destin d'Isaac que celui d'Abraham et de Jacob. Je dirais déjà d'une autre manière. Un homme qui est au commencement d'une certaine histoire voit son destin individuel fondé. Celui qui littéralement a commencé quelque chose a fait quelque chose dans sa vie. Sa vie a un fondement. Celui qui achève cette chose a aussi fait quelque chose de sa vie. Sa vie a un fondement. Mais tous ceux qui sont entre le premier et le dernier, c'est à eux que se pose le problème de la cohérence et de la finalité de l'existence. Et ce problème-là est vécu par Israël, mais il est vécu par l'humanité entière, depuis le premier homme jusqu'au fils de l'homme, et vécu par Israël au niveau de patriarche, et très exactement au niveau d'Isaac. Pour le dire en d'autres termes, avant d'être lui-même, il est d'abord le fils du père, en tant qu'il est fils d'Abraham, et le père du fils, en tant qu'il est père de Jacob, mais en lui-même, qu'est-il? Et c'est bien, effectivement, ce drame des générations intermédiaires et la situation qui porte le problème de l'inadéquation entre soi et soi-même. Or, c'est précisément ce patriarche, Isaac, qui avait à plaider pour Israël, parce que c'est effectivement lui qui portait ce destin de la question posée par Dieu, pourquoi l'exil dure si longtemps, c'est donc que Israël a fauté. la deuxième manière de l'expliquer, c'est le fait de se reporter à l'identité de chacun de ces patriarches du point de vue de leur vertu individuelle. Nous savons que ça se mange à la symbolique du vocabulaire biblique, et nous savons d'autre part que Abraham, Isaac et Jacob ont ensemble collaboré à faire exister l'identité d'Israël, mais chacun d'entre eux par le biais d'une vertu différente. Abraham par la vertu de charité, par la vertu de chesé, Jacob par la vertu de miséricorde, par la vertu de rachamim, par la vertu de vérité, et Isaac par la vertu de la rigueur, par la vertu de la justice absolue. Or, c'est pour que ce plaidoyer pour Israël puisse être fait du point de vue de l'identité des commencements, pour que ce plaidoyer pour Israël puisse être fait, il fallait que ce soit l'homme de la rigueur absolue qui le fasse. Si c'était Abraham en tant qu'homme de Chesed, ou Jacob en tant qu'homme de Rachamim, qui plaidait pour Israël inadéquat à lui-même, pour Israël de la faute, ce plaidoyer serait inefficace. Il fallait que ce soit l'homme de la rigueur absolue qui plaide pour Israël. Lorsque c'est la Midatadim, en toute justice, en toute rigueur, que finalement ce jugement se fait par l'homme des générations intermédiaires, c'est-à-dire par Isaac. Bien, voici les deux textes de base qui nous permettront, à partir desquels nous allons donc réfléchir à leur problème. Il y a une évidence qui apparaît dans l'enseignement du Maharal, c'est le caractère absolument anormal de ce stade intermédiaire qui est effectivement donc représenté dans l'histoire des patriarches par Isaac, de ce stade intermédiaire de l'existence d'Israël entre le commencement et la fin. Au commencement apparaît une identité spécifique, l'identité hébraïque. À la fin apparaît de nouveau cette identité spécifique au terme d'une histoire réussie, l'identité d'Israël. Ça ne veut pas dire déjà, je ne veux pas anticiper pour dire ici Israël ne signifie pas encore israélien, mais enfin un Israël qui ne serait qu'Israël. Un juif ou un hébreu qui ne serait que cela après l'histoire, après toute l'histoire, après que le rapport avec l'universel des nations aurait réussi. Au commencement, il y a un Israël qui n'est qu'Israël, et c'est au début de la sélection, au terme, il y a un Israël qui n'est qu'Israël, et qui est au terme de la sélection. Et ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que tout ce stade intermédiaire est un stade d'anormalité, et cette anormalité se traduit par une inadéquation avec son propre être. Alors, essayons de réfléchir à la signification de ce commencement et de ce terme de l'histoire d'Israël du point de vue de ces deux pans de la messianité, cette spécificité qui apparaît au début et qui se retrouve à la fin, et d'autre part, cette relation avec l'universel humain qui fait tous les stades intermédiaires. Et je voudrais vous signaler déjà ce qui n'est pas, à mon sens, un paradoxe, mais bien une explication de ce problème. Abraham et Jacob ont été les deux patriarches qui ont changé de nom et qui n'ont pas vécu leur vie en Eretz Israël, qui ont été dans l'exil. Abraham a connu ce phénomène d'une mutation de l'identité, changement de nom. Jacob a connu ce phénomène d'une mutation de l'identité, changement de nom, et tant Abraham que Jacob ont eu à changer de nom, ont eu aussi à changer d'endroit, ont eu à vivre dans l'exil. Abraham devient Abraham, et il y a Abraham vivant dans le pays de Canaan, et Abraham ayant vécu aussi en dehors. Jacob devient Israël, et il y a Jacob chez Laban, et Israël chez lui. Et je crois que cela est extrêmement parallèle. Or, Isaac est celui des trois patriarches qui n'a pas changé de nom et qui n'a jamais quitté Eretz Israël. Et c'est à lui que se réfèrent ces textes pour parler de l'authenticité d'Israël pendant tout le temps intermédiaire, pendant tout le temps de l'exil. Il n'y a pas là du tout un paradoxe, et on comprend bien que c'est l'identité authentique d'Israël qui, seule, peut justifier et expliquer cette pente de la vocation de la descente. Et nous allons nous référer à l'histoire du commencement, et nous nous référons, en fin de compte, à l'histoire de la fin. L'histoire du commencement. D'où procède l'identité d'Abraham? Et cet effort, au niveau de trois générations, aura été l'effort d'une sélection qui t'a fait exister l'identité Israël au niveau de Jacob. D'où procède l'identité d'Abraham? Et là, je vous rappelle un thème extrêmement important de la Bible, c'est que il a existé, selon le récit biblique, il a existé dans la plus haute antiquité un universalisme humain concret, un universalisme humain réel, qui était la civilisation de Babel. La civilisation de Babel antérieure à l'apparition à l'existence de l'histoire d'Israël, antérieure à l'apparition à l'existence des patriarches eux-mêmes. Cette civilisation de Babel a éclaté en autant de nations qui sont les nations de base, qui sont le fondement des identités humaines, de chaque identité sociale ou sociologique des sociétés contemporaines. Il y a eu donc dans l'Antiquité un universel humain, cet universel a éclaté et il en est résulté la dispersion des nations. Si j'osais, je dirais, je l'ai déjà dit quelques fois, qu'au fond, la dispersion, avant d'être la dispersion des Juifs, a été la dispersion des nations. Les nations sont dispersées entre elles. Et les nations contemporaines, déjà depuis le temps de l'Antiquité biblique, depuis ce temps-là, les nations sont le résultat d'un éclatement de l'unité humaine. Et l'identité d'Israël, à partir d'Abraham, apparaît comme une autre manière d'être homme qui se présente dès la prophétie au patriarche comme ayant pour vocation de réunifier cet éclatement de la dispersion humaine. Il y a une identité spécifique dès l'origine, c'est l'identité hébraïque, celle qui apparaît avec Abraham, mais dans sa spécificité même, elle est vouée à la dispersion dans la dispersion céleste. Et le caractère anormal de l'existence pendant les différentes générations de l'exil vient que chacune des communautés issues de la dispersion d'Israël n'est occupée qu'à la relation avec une nation considérée. Israël, dans son identité centrale, est donc voué du point de vue de la dispersion à être le centre d'une périphérie qui serait toutes les nations. Mais dans la situation historique concrète, dans la situation historique réelle, chacune des communautés juives de la diaspora n'a jamais été reliée qu'avec une culture en particulier, qu'avec une culture considérée. Et c'est la raison pour laquelle il y a une diminution d'envergure dans l'identité d'Israël de l'exil par rapport à l'Israël des commencements ou à l'Israël de la fin. L'Israël des commencements est d'emblée l'exposant de l'humanité tout entière au niveau des patriarches, de même que l'Israël de la fin. Mais à chacune des générations, il y a inévitablement inadéquation de l'identité d'Israël avec elle-même, parce que chacune des communautés ne peut être branchée que sur une partie de l'universel humain et jamais sur l'universel humain en général, dans sa totalité. Cette dialectique de l'exil et du salut se relie à ce point précis. Ce n'est que dans la mesure où l'identité juive est capable de reconstituer cette identité spécifique d'Israël à l'exposant de l'ensemble de l'humanité que le salut se trouve être proche. Ce n'est que dans la mesure, donc, où Israël de l'exil prend acte par un jugement et par un bilan qu'il fait sur lui-même que ces trois dimensions de force qui avaient été désignées par le texte que je vous ai cité dans la Gemara de tout à l'heure sont déjà réservées. Et qu'il peut être occupé à constituer une identité humaine qui qui peut faire la preuve de son authenticité par rapport à ses trois coordonnées, le rapport avec Dieu, le rapport avec l'autre homme et le rapport avec lui-même. Il y a deux polarités d'authenticité, celle du commencement et celle de la fin. C'est cette même histoire qui se développe à travers toutes les générations, mais ce n'est que dans la mesure où il y a une fidélité à la spécificité des commencements à celle de la fin, que l'histoire de l'exil peut être justifiée. Ce témoignage que porte Isaac ne peut concerner que une identité juive qui se connaît comme spécifique de par son passé et de par son avenir, quelle que soit la relation avec l'universel qu'elle compte dans les générations de la vie. Voici l'analyse que je voulais en partie vous rappeler et en partie vous présenter. Et je pense que nous pouvons tout de suite aborder la deuxième partie du cours en posant la question, qu'en est-il aujourd'hui? La question du Maharal était pourquoi l'exil dure. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'en est-il? Est-ce que cette durée de l'exil a pris fin? Est-ce que la société d'Israël, qui est en train de se constituer aujourd'hui, est bien la recherche d'une spécificité retrouvée à l'exposant de l'universel humain tout en tout dans tout? Eh bien, avant d'aborder cette deuxième partie, je voudrais vous donner la parole de cette sorte de la construire d'après les questions qui se poseraient à vous. Je vous demande d'essayer de vous en tenir, si vous voulez, au sujet des analyses que je vous ai présentées du point de vue de l'étude, de telle sorte de ne pas avoir à analyser d'autres textes ou d'autres sources, mais de poser vos questions concernant la deuxième partie du cours. Vous avez la parole. Je vous demande de faire des silences de telle sorte que les questions soient entendues par tous. Parlez pour tout le monde, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît, j'entends pas. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Yeah. J'ai compris la question.
Et le fait que cette authenticité humaine
pas seulement sous forme problématique, mais en général, est vécue par l'identité d'Israël au paroxysme. C'est cette équation qu'il faut toujours avoir en mémoire. Eh bien, vous voyez que notre problème ressemble beaucoup à l'équation posée par la théologie en général. Que s'est-il passé dans la faute du premier homme pour que l'histoire humaine qui a suivi est celle qui a suivi? Dans le registre qui nous occupe, que s'est-il passé au niveau des patriarches de telle sorte que l'histoire de leur descendance a été celle qui a suivi? Eh bien, je crois que c'est très parallèle. Je ne dis pas du tout que le premier homme a été innocent. Mais je dis que le geste par lequel l'humanité a été fondée est un geste de juste, est un geste d'authenticité par rapport à la loi du Créateur. Je ne dis pas du tout que les patriarches, c'est-à-dire les hommes du commencement d'Israël, sont eux-mêmes déjà le fils de l'homme, c'est-à-dire l'histoire d'Israël réussie. Mais je dis qu'à leur échelle d'homme du commencement, leur manière d'être Israël est absolument celle d'un sadique. Par conséquent, où est véritablement la gravité de l'inadéquation, de la faute en termes théologiques? Elle se trouve dans l'identité humaine à l'échelle générale ou dans l'identité d'Israël, dans notre cas particulier, dans les générations successives, dans notre manière d'être homme à travers tout le temps de l'histoire. Et à la limite, il nous faut bien comprendre, le premier homme est innocent de ce qu'on lui reproche, puisque son courage a été de fonder l'identité humaine. À l'échelle d'un individu qui serait aussi ce premier homme, bien entendu, on veut trouver quelle est la faute et son repentir. Et de la même manière, ce que la Gemara elle-même dit des patriarches ne concerne pas la personnalité des patriarches eux-mêmes. Elle concerne notre existence, elle concerne notre manière d'exister. Vous m'avez posé la question à quel temps précis Dieu s'est adressé aux patriarches pour leur dire cela. Mais c'est un jugement permanent qui est parallèle à tout le développement de l'histoire d'Israël. Et je répète un peu sous une autre forme ce que j'ai dit tout à l'heure. Dire que les enfants ont fauté, c'est exactement la même chose que de dire Israël est en exil. Israël est en exil, ça veut dire qu'il est encore inadéquat à sa propre identité. Il est encore en apprentissage. Il est encore en rédemption. Il est encore en gestation. Maintenant, sur le point précis de la dernière question qui a été posée, je reprends les trois reproches que la Gemara avait fait à Abraham. Premièrement, avoir détaché des hommes qui étaient déjà ses élèves, les Hanichas, les initiés à l'identité d'Abraham, avoir détaché des hommes non seulement de leur contemplation de la vérité du monde à venir, mais de leur préparation à cette vérité du monde à venir, de leur tâche de vocation à l'étude de la connaissance et de la vérité, de les avoir détachés de cela pour les insérer dans la vie temporelle, dans la vie concrète, dans la vie historique, parce qu'il fallait sauver l'identité humaine en s'introduisant dans le monde de l'effort matériel, de l'effort concret de l'histoire à la limite de la guerre. Le deuxième reproche, c'est en fin de compte d'avoir douté de soi. L'expression talmudique est d'avoir douté de la sincérité des attributs de Dieu, midotar, c'est la kadosh baruch hu, mais d'avoir douté de soi en tant qu'étant la créature de ce créateur, en tant qu'étant l'homme à qui cette promesse a été faite. Abraham s'est demandé, suis-je Abraham? Il s'est demandé, suis-je juif? Ou qu'est-ce que être juif? Cette perplexité, ce doute. Le troisième reproche, c'est d'avoir restreint son identité à lui seul et de n'avoir pas introduit à l'intérieur de l'identité d'Israël ce qui était à l'extérieur. Alors, en termes directs, c'était le problème de la conversion. Je voudrais éclairer ce problème, qui est un problème très vaste, parce qu'il y a un plan juridique de la halakha, qui nous dépasse ici, il a donc mis à d'autre part un plan de compréhension. Je voudrais éclairer quand même ce point. Vous devez remarquer avec quelle minutie la Bible nous montre que les patriarches étaient soucieux d'engendrer une identité spécifique, strictement hébraïque, sans rien y faire pénétrer de l'extérieur avant que l'engendrement de cette identité d'Israël soit achevé. Les patriarches ont eu le souci de fabriquer le mariage de leurs enfants de telle sorte qu'ils soient sûrs que ce soit Israël qui soit engendré. Mais à partir du moment où cet engendrement est fait, à partir du moment où cette identité Israël est là, alors le principe s'inverse. Il devient un devoir de faire pénétrer dans cette identité d'Israël quiconque en fait partie dans le principe. Certains autres textes nous donnent l'image suivante. C'est certainement d'ailleurs l'expression de la Gemara. Les Achnis, Tachat, Tanfer, Shina. Nous donnent l'expression suivante, l'image suivante. Tout se passe comme si, dès le début de la constitution de l'identité d'Israël, une certaine capacité d'âme qui appartenait à l'âme d'Israël est restée en dehors. Et que, très précisément, c'est une Gemara de Fougaché, l'Argaskan était un enseignement de la Gemara très précis, qu'une des finalités de l'exil était de faire cela, que cette capacité d'âme d'Israël, mais qui est cachée, qui est exilée d'Israël, en dehors des hommes d'Israël, puisse rejoindre l'identité d'Israël. Que s'il y a un sens à l'exil, c'est une des dimensions. Que s'il y a un sens à l'exil, c'est de pouvoir ramener avec notre retour tous ceux qui, des nations, sont en réalité de l'identité d'Israël. Et voyez-vous que je prends cette analyse comme démonstration de ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas du tout au niveau du patriarche qu'il y avait l'éventualité que ce qui est reproché soit une faute. Au contraire, Abraham avait le devoir de fabriquer par une sélection très stricte l'identité d'Israël, sans y mélanger quoi que ce soit d'autre de l'extérieur. Je pense que c'est suffisamment clair, sinon nous pouvons nous référer aux événements précis. Lorsque Abraham envoie Eliezer chez Laban pour voir si de la famille de lui-même Abraham était sorti, il pouvait y avoir une femme pour son fils Isaac. Cette sélection violente, brutale entre Ésaü et Jacob, qui disqualifie Ésaü parce qu'il a pris les femmes étrangères, alors que Jacob seul est resté fidèle aux conditions de l'alliance. Mais à partir du moment où les tribus sont engendrées, à partir du moment où l'identité d'Israël est engendrée, alors là, pour les générations du peuple d'Israël, ce qui aurait été une faute pour les patriarches devient un devoir. Vous voyez bien que le reproche est donné aux générations intermédiaires et non pas aux hommes du commencement ou aux hommes de la fin. Est-ce que c'est bien clair hein? Au commencement, cette matrice qui porte le salut de l'humanité doit être d'identité spécifique. À la fin, elle doit être aussi d'identité spécifique. Mais pendant toutes les générations intermédiaires, faire ce qui est reproché à Abraham d'avoir réussi le faire serait une... Terminer sur cet exemple, sur la question qui m'a été posée, bien entendu, à partir du moment où la conversion, pour employer ce terme-là, a une motivation authentique. Dans la mesure où cette conversion est de motivation authentique, alors ça devient un devoir de la réalité. Dans la mesure où cette conversion n'est pas de motivation authentique, alors bien entendu, là, tous les règlements de la halakha doivent jouer. Mais je pense personnellement que les péripéties historiques ont fait que nous sommes placés dans des conditions de difficulté telles qu'il nous est impossible de réaliser ces trois choses-là. D'arriver à faire cela. Première dimension, que les hommes voués aux tâches spirituelles soient capables de prendre en main la direction des affaires temporelles. C'était le premier reproche qui avait été fait. Sauf